Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou HPN. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Flore Sicre de Fontbrune. Docteur Sicre de Fontbrune, bonjour.
Bonjour.
Docteur Sicre de Fontbrune, vous êtes hématologue, praticien hospitalier au sein du service d'hématologie greffe de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes également responsable au sein du service du site coordonnateur du centre de référence aplasie médulaire HPN et vous avez participé à la rédaction du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur les aplasies médulaires acquises et constitutionnelles. Alors, docteur Sicre de Fontbrune, nous allons plus particulièrement aborder ensemble l'HPN aplasique et on va débuter par l'aplasie si vous le voulez bien. Comment définit-on l'aplasie médulaire ?
Alors, l'aplasie médulaire est une pathologie qui se caractérise par des cytopénies, donc anémie, thrombopénie, neutropénie, le plus souvent toutes trois associées, mais qui peuvent parfois être des bicytopénies, d'origine centrale, c'est-à-dire liée à un déficit de production par la moelle osseuse, et ce déficit de production est lié à une raréfaction des cellules souches hématopoïétiques qui se traduit, quand on fait une biopsie ostéomédulaire, par une diminution importante de la richesse de la moelle osseuse. Donc, cette raréfaction des cellules souches hématopoïétiques peut être globalement de deux origines. La première, plus rare et prédominante chez l'enfant, est d'origine génétique. Et la seconde, beaucoup plus fréquente, et en particulier chez l'adulte, est d'origine immunologique, liée à une attaque du système immunitaire, en particulier des lymphocytes, qui bloquent la production et le renouvellement des cellules souches hématopoïétiques.
Et quels sont les liens entre aplasie médulaire et hémoglobinurie paroxystique nocturne ?
Alors, on considère que l'hémoglobinurie paroxystique nocturne est la sélection de certaines cellules souches hématopoïétiques qui présentent une mutation acquise, mutation du gène PIGA. On peut tous avoir quelques cellules souches qui vont avoir cette mutation du gène PIGA, mais elles ne vont pas persister chez les individus qui n'ont pas d'aplasie médulaire parce qu'il n'y a pas de pression du système immunitaire pour sélectionner cette ou ces cellules souches hématopoïétiques. Quand on a une aplasie médulaire, ces cellules souches hématopoïétiques mutées vont avoir un avantage par rapport à la moelle normale qui, elle, est pathologique et donc vont donc s'expandre et prendre petit à petit toute la place au sein de la moelle et donc de l'hématopoïèse. Donc, on considère globalement que tous les patients qui ont une HPN ont une pathologie médulaire sous-jacente qui favorise l'expansion de ces clones. Et dans l'immense majorité des cas, cette pathologie médulaire est une aplasie médulaire. Dans de rares cas, ça peut être également des syndromes myélodysplasiques. Donc, tout patient qui a une HPN a, de façon sous-jacente, a priori une aplasie médulaire, même quand on ne la voit pas, à la fois sur la numération ou sur la biopsie de moelle. C'est pour ça qu'on surveille les patients qui ont une HPN, exactement comme on surveille les patients qui ont une aplasie médulaire.
Et d'un point de vue clinique maintenant, quels sont les types de présentations cliniques rencontrées en cas d'aplasie médulaire ou d'HPN ? Et à quel moment évoquer l'un ou l'autre de ces diagnostics ?
D'un point de vue clinique, les patients, le plus souvent, se présente en cas d'HPN avec une anémie. Cette anémie va se caractériser par une anémie hémolytique avec hémoglobinurie. On va donc avoir, en plus de l'anémie, c'est-à-dire la fatigue, l'essoufflement, les signes classiques d'aplasie, des signes d'hémolyse, donc éventuellement un ictère cutané ou muqueux, et des signes d'hémoglobinurie, donc des urines qui peuvent être classiquement porto, même si c'est assez variable d'un patient à l'autre, et des signes de dystonie liés à l'hémolyse intravasculaire, donc des douleurs abdominales, parfois une complication, enfin un symptôme qui est assez rare, mais qui est fréquent dans l'HPN, qui est la dysphagie, ou des troubles de l'érection, qui peuvent être des signes associés à l'HPN, et qu'on va par contre pas rencontrer chez les patients qui ont une aplasie médulaire. Par contre, quand on a une aplasie médulaire sévère, sans HPN, on va avoir une anémie, mais qui est arégénérative. Donc, il n'y aura pas les signes d'hémolyse et pas les signes liés à l'hémoglobine, à l'hémolyse intravasculaire. Et par contre, on a souvent des signes liés aux autres cytopénies, c'est-à-dire à la thrombopénie, donc éventuellement un purpura d'un syndrome hémorragique, ou à la neutropénie, c'est-à-dire les complications infectieuses. Et donc, dans les rares cas où on a les deux présentations de façon similaire, on peut avoir l'ensemble des symptômes. Parmi les signes cliniques qu'on peut observer chez les patients qui ont une HPN hémolytique, il y a également toutes les complications thrombotiques, puisque cette maladie est associée à un risque de thrombose extrêmement élevé, et donc tous les signes à la thrombose, en particulier les thromboses des veines hépatiques, le syndrome de Budd-Chiari, les thromboses splanchniques, et éventuellement également des thrombophlébites cérébrales. Il faut donc, en cas d'anémie associée à une thrombose ou de cytopénie associée à une thrombose, évoquer également le diagnostic d'HPN ou d'aplasie HPN. On peut avoir une aplasie médulaire initialement avec un tout petit clone HPN qui ne fait pas parler de lui, ou même sans clone HPN, et être diagnostiqué avec une aplasie médulaire, et dans un second temps, le clone HPN s'expand et va donc devenir cliniquement symptomatique. Ça arrive à peu près chez 30% des patients qui ont une aplasie médulaire et qui vont développer un HPN. À l'inverse, on peut avoir initialement une HPN hémolytique, éventuellement thrombotique au premier plan, avec des cytopénies par ailleurs, thrombopénie, neutropénie, qui sont très discrètes, mais qui vont évoluer vers une aplasie médulaire dans le deuxième temps et nécessiter une prise en charge de l'aplasie médulaire, alors qu'initialement, c'était plutôt l'HPN qui était au premier plan. Et puis, plus rarement, on peut avoir en même temps, au diagnostic, à la fois une aplasie médulaire qui nécessite une prise en charge thérapeutique et un clone HPN qui est symptomatique et qui nécessite également, dès le diagnostic, une prise en charge thérapeutique. Et quand on surveille un patient qui a une aplasie, même si initialement il n'avait pas de clone HPN, on fait au moins une fois par an une recherche de clone HPN pour vérifier que celui-ci n'apparaît pas. Et de la même façon, quand on a un patient qui a un clone HPN, on le surveille comme s'il avait une aplasie médulaire. Et donc régulièrement, on va réévaluer au niveau de la moelle s'il n'y a pas des complications qui peuvent être liées à l'aplasie médulaire. Donc on surveille chaque groupe de patients comme étant un candidat potentiel à l'autre, entre guillemets, pathologie.
Et pour conclure, docteur Sicre de Fontbrune, quel est l'impact de l'un ou l'autre de ces diagnostics sur la prise en charge thérapeutique et le suivi des patients ?
L'aplasie médulaire peut avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique du patient qui a une hémoglobinurie paroxystique nocturne lorsqu'elle survient, parce que on peut observer une perte d'efficacité, entre guillemets, des traitements de l'HPN du fait d'un défaut de production médulaire qui va nécessiter alors de traiter l'aplasie. Par exemple, si la moelle se met à ne plus produire suffisamment de globules rouges pour compenser, entre guillemets, la destruction persistante liée à l'HPN, ben on va avoir une anémie qui va apparaître beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on surveille régulièrement qu'il n'y a pas d'aplasie qui apparaît chez les patients qui ont un HPN. Et puis, à l'inverse, d'un point de vue pratique, si un patient se met à avoir une anémie hémolytique, même s'il est en réponse du traitement de son aplasie médulaire, ben, si cette anémie hémolytique est symptomatique ou s'il développe des complications liées à l'HPN, il va nécessiter une prise en charge thérapeutique par un inhibiteur du complément. Donc, d'un point de vue pratique, le traitement de l'un va impacter sur le traitement de l'autre. Alors, la seule particularité où la prise en charge des deux est commune, entre guillemets, c'est la greffe de moelle, puisque quand on traite l'aplasie médulaire par une allogreffe de moelle, et ça, c'est ce qu'on fait chez globalement les patients jeunes de moins de 40 ans qui ont un donneur compatible ou des patients qui ont un donneur sur le fichier dans certaines situations, la greffe de moelle va permettre de guérir à la fois l'aplasie et l'HPN. À l'heure actuelle, on ne propose pas de greffe pour des patients qui ont uniquement une HPN hémolytique, sinon pas d'aplasie médulaire qui justifie une greffe, parce qu'on a des traitements qui sont très efficaces et qui sont, on va dire, moins risqués pour traiter l'HPN quand elle est isolée. Mais si jamais il y a une indication de greffe pour l'aplasie, elle va permettre de guérir également l'HPN.
Eh bien, merci mille fois, docteur Sicre de Fontbrune, de nous avoir éclairé sur cette maladie rare qu'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne de type aplasique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur l'HPN. À très vite.